Les voies de service, mercredi, le 31 octobre 2018. Bonjour tout le monde, ici Daniel Lachance, au micro de Canal M pour les voies de service et je suis en compagnie de mon collègue Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, tout le monde, ça se résume à nous deux.
Oui, c'est ça, on est seulement deux aujourd'hui. Notre collègue Isabelle Falardeau est absente. Et on est aussi en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde.
Bonjour.
Vous allez bien?
Absolument.
Oui, on voit son déguisement de metteur en onde qu'on connaît.
Un t-shirt à l'effigie de Ghostbuster.
Ghostbuster.
Pour tous ceux et celles qui ne peuvent me voir en ce moment.
Absolument. Et donc, c'est très approprié pour l'occasion d'Halloween. Mm-hmm. Et vous, Serge, vous êtes déguisé, hein?
En moi-même.
Bon, donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Serge?
Moi, dans la première partie, j'ai un article qui est assez long, donc je vais le faire en deux parties.
Sections.
C'est sur Bessie Coleman. C'est la première femme noire aux États-Unis à avoir conduit un avion, à avoir réussi à conduire un avion.
Un avion, ah oui?
Oui, okay. Et ça a été dans les années 1920, mm-hmm. Et ça a été tout, évidemment, avec la ségrégation qui existait à ce moment-là, ça a été une aventure. Alors, je vais vous parler de cette grande dame.
Et moi, je vais vous parler de musique, bien entendu, et pas nécessairement en relation avec l'Halloween. Quoique, des sujets peut-être. Je vais vous parler de musique qui améliorerait probablement la productivité en première partie. Et bon, les autres, je vais voir. Je verrai après.
Alors, c'est un article de la revue « Ça m'intéresse, histoire » de l'automne 2018. Bessie Coleman, « La liberté au bout des ailes », écrit par Véronique Chalmet. Un beau jour pour voler, se dit Bessie Coleman. À 34 ans, la jeune femme noire est parvenue au sommet de la gloire. Honorée par sa communauté, elle est enfin respectée par l'Amérique blanche. Tous la surnomment Queen Bess. Elle vient d'acheter son premier avion personnel, un Curtiss JN-4. Surnommé Jenny, cet appareil est un ancien avion militaire de la Première Guerre mondiale. Pour le ramener de Dallas, au Texas, jusqu'à Jacksonville, son mécanicien et copilote William Wills, il a dû faire 3 atterrissages de fortune. « Ce fichu coucou est en piteux état, Bess, méfie-toi », lui a-t-il dit. Mais la devise de Bessie étant « Je ne prends jamais non pour une réponse acceptable », elle hausse les épaules. Sanglée dans sa combinaison d'aviatrice, un éternel sourire aux lèvres, elle enfile ses gants de cuir, son casque et grimpe dans le cockpit. Le lendemain, 1er mai 1926, elle doit se produire lors d'un des grands shows aériens qu'elle multiplie pour gagner sa vie. Sur les affiches annonçant le spectacle, on lit que l'intrépide Bess a prévu de sauter de son avion en parachute après avoir effectué de multiples acrobaties avec son Jenny. L'avion décolle. L'organisateur de l'événement, John Betch, et les membres de son staff sont venus assister à la répétition. Rapidement, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. L'avion a dératé. Au bout de 10 minutes, il part en vrille. Soudain, sous les yeux horrifiés de ses amis, la silhouette de Bess se profile un instant, bizarrement suspendue à la carlingue, avant de lâcher prise à plus de 600 mètres d'altitude. Une chute de plusieurs longues secondes. Bessie Coleman tombe dans l'azur éclatant. Un beau jour pour mourir? La réponse à la fin de l'article. Avant de flirter avec les nuages, Bessie a passé son enfance penchée au ras du sol dans les champs de coton. Née le 26 janvier 1892 dans la bourgade d'Atlanta, au Texas, elle est la 10e d'une fratrie de 13 enfants. Son père, George, est moitié Cherokee, moitié afro-américain, comme sa femme, Susan. Quand Bessie a 2 ans, ses parents, ouvriers agricoles itinérants, ont enfin économisé de quoi s'installer à Waxahachie, non loin de Dallas. Ils y bâtissent une maison. C'est la fin de l'errance, mais pas celle de la peur. Dans le Texas ségrégationniste, la situation est intenable pour George, son père, doublement stigmatisé à cause de son métissage amérindien. Il est finalement obligé de quitter les siens et de se réfugier en Oklahoma, dans une réserve indienne. Susan, sa femme, devient domestique. La petite Bessie, elle, doit abandonner l'école pour retourner ramasser le coton, travailler comme blanchisseuse, puis comme bonne. Mais elle compte bien faire autre chose de sa vie. Son rêve se cristallise à 11 ans. Le 18 décembre 1903, ce jour-là, elle lit dans un journal l'exploit des frères Wright qui, la veille, ont effectué le premier vol de l'histoire dans un avion amateur sur une plage de Caroline du Nord. À l'origine, ces pionniers sont de simples fabricants de vélos. S'ils ont réussi l'impossible, pourquoi pas elle? À 18 ans, Bessie économise de quoi se payer un an dans le seul établissement supérieur pour noirs de la région. La jeune femme est douée, en maths, brillante et très intelligente. Elle se découvre une nouvelle idole, la Française Élise Deroche est devenue la première femme au monde à décrocher son brevet de pilote le 8 mars 1910. Quand même assez tôt, hein? 4 ans plus tard, la guerre éclate et Bessie lit dans la presse les exploits de quelques pilotes de chasse afro-américains. Elle travaille chez un barbier, pour gagner des sous. Donc, chez son patron barbier, elle rencontre deux hommes qui vont l'aider moralement et financièrement, Robert Abbott, un avocat, et patron afro-américain de l'hebdo Chicago Defender, et Jess Binga, un banquier et businessman. Tous deux l'encouragent à promouvoir les droits des femmes et de leur communauté en accomplissant son projet « devenir pilote ». Aux États-Unis, aucune école d'aviation n'admet les femmes noires. Je pense qu'elle n'acceptait pas les hommes noirs non plus.
Non, j'imagine, à l'époque.
Ouais. En revanche, la France ouvre ses aéroclubs à tous les téméraires, à toutes les téméraires. Bessie décide de prendre des cours de français. Avec ses économies et l'aide de ses amis, elle embarque sur un paquebot à destination du Havre le 20 novembre 1920. La voyageuse a 28 ans, mais falsifie sa date de naissance lors de l'établissement de son passeport flambant neuf et s'accorde 4 ans de moins. Pourquoi pensez-vous?
Ouais, j'imagine qu'il y a une limite d'âge pour s'inscrire.
Non, du tout, c'est pas par coquetterie, rien. C'est que c'est une petite marge pour relever le défi qu'elle s'est donné, avoir son brevet de pilote avant 30 ans.
Ah!
Il y a juste celle qui le savait. Alors, c'est ça, donc, vous aurez la suite de l'article dans la deuxième partie tout à l'heure. Là, avant
c'est bon.
De... OK.
Et moi, j'ai trouvé un article mercredi dernier. J'ai pas eu le temps de le lire sur l'émission de mercredi, donc je vais le reprendre cette semaine. C'est paru dans le 24 heures. Et le titre, c'est « La musique améliorerait la productivité ». J'étais un petit peu curieux de lire ça, donc je vais vous le lire. « Écouter de la musique au travail améliore la productivité ». C'est ce que révèle un sondage Accoutant sur la question. Pour beaucoup de professionnels, écouter de la musique au travail est relaxant, aide à limiter les distractions et peut accroître la concentration et la productivité, particulièrement dans les environnements de travail plus occupés, déclare David King, président, je ne sais pas si on dit accoutant ou accountant, ou en tout cas, donc président de cette société. Avec la multiplication des bureaux à aire ouverte et la popularité du télétravail, souvent à partir de lieux publics, on comprend mieux pourquoi 61% des sondés se considèrent comme plus efficaces lorsqu'ils se créent une bulle en s'isolant des bruits des autres et en contrôlant ce qui meublera leurs oreilles. Je peux comprendre aussi, si on travaille dans un bistrot ou quelque chose comme ça, il faut quand même s'isoler un peu.
Bon, ouais.
Par contre, moi, écouter de la musique, c'est fini. Là. Je pars là-dessus. Je ne suis pas capable de travailler. Mais bon, dépend des personnes. Concentration et créativité accrue. Pour la chercheuse américaine et professeure adjointe en musicothérapie à l'Université de Miami, Theresa Lasuk, elle, qui s'intéresse à l'influence de la musique sur le milieu de travail, les mélodies aident à sortir le cerveau du mode de pensée automatique. Mm-hmm. Parce que la musique influence l'humeur, elle a aussi constaté dans l'une de ses études que ceux qui en écoutent trouvent de meilleures idées et parviennent à des solutions plus rapidement que ceux qui n'en écoutent pas. Ah. Et moi, je l'ai toujours dans ma tête, même quand j'en écoute pas. Donc, ça doit être une bonne chose. L'utilisation d'écouteurs constitue une pratique respectueuse envers vos collègues qui n'auront pas à subir votre amour dévorant pour le métal ou le free jazz. Attention toutefois à demeurer disponible à ceux qui vous entourent. Gardez le volume de votre musique bas pour entendre votre téléphone qui sonne ou un collaborateur qui essaie d'attirer votre attention. Ouais, j'imagine qu'on travaille dans un bureau avec d'autres personnes, il faut quand même rester disponible. Pour les 400 adultes canadiens travaillant dans des bureaux qui ont répondu au sondage, certains styles musicaux se démarquent lorsqu'il est temps de retrouver son énergie et sa motivation. Ainsi, le pop, le rock, la musique alternative et le classique se retrouvent en tête de liste. Si 77 % des répondants ont affirmé avoir le droit d'écouter de la musique au travail et l'apprécier, il semblerait que les jeunes sont plus sensibles à l'impulsion que leur donne leur chanson préférée. Ainsi, 87 % des répondants de 18 à 34 ans ont mentionné en faire l'écoute au travail, alors que la proportion baisse à 73 % pour les 35 à 54 ans et à 57 % pour les 55 ans et plus.
Sedation. You wanna feel at home, 'cause you belong. Welcome to my nightmare. Welcome to my breakdown.
Un petit retour musical en 1975, c'était donc il y a 43 ans cette année, avec Monsieur Alice Cooper et Welcome to My Nightmare, bienvenue dans mon cauchemar.
Très, très approprié pour une journée d'Halloween. Alice Cooper, qui lui-même est un personnage d'Halloween, on peut dire, oui. Parce que quand même, c'est pas le chanteur ne s'est jamais présenté comme étant lui-même. Ah, ouais, ça a toujours été un personnage, puis dans des contextes, dans une ambiance très, très théâtrale. Donc, Serge, on va poursuivre avec Madame
Queen
la
Bess.
Pilote d'avion.
Oui, oui. Juste avant de l'épisode de France, je donne une petite d'autres informations. À 22 ans, elle avait rejoint son frère aîné installé à Chicago et y avait épousé en début 1917 un homme de 14 ans, son aîné, Claude Glenn. Ils ne vivront jamais ensemble. Tous deux sont convenus d'un mariage prétexte pour sauver les apparences. Parce qu'à l'époque, évidemment, une femme ne peut rien faire sans l'autorisation de son mari.
Donc, lui, alors, était là pour signer.
Pour, oui, pour lui donner lui assurer sa liberté. Alors, Bessie croque la vie et comme les clubs de jazz croisent Louis Armstrong et même quelques gangsters, même. Un élan porte la communauté noire de la ville à lutter pour ses droits civiques que le refusent les blancs conservateurs et racistes. Et en juillet 1919, explosent à Chicago les premières émeutes raciales de l'histoire des États-Unis. Et alors, il y a eu des morts, des blessés, tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'elle a décidé de partir pour la France. Donc, dans le nord de la France, Gaston et René Caudron lui ouvrent les portes de leur école aérodrome, fondée 10 ans plus tôt. Drôle d'endroit pour une drôle de rencontre. Les Français du coin n'ont jamais vu de femme noire, sauf pour certains, lors de l'exposition d'Amiens en 1906, où un, entre guillemets, village nègre avait été reconstitué. Mais les ch'tis se prennent vite d'affection pour la jeune américaine. Bessie découvre les moules frites et la tarte au maroilles et accède enfin à son 7e ciel. Seule femme parmi les 12 élèves de sa promotion, elle achève sa formation en 7 mois, quand la norme est de 10.
Quand même assez brillante.
Hein? Oui. Le 15 juin 1921, elle obtient sa licence internationale de pilote. Elle est à la fois la première femme noire et la première personne afro-américaine à décrocher cette certification. Lorsqu'elle revient aux États-Unis, le 29 septembre 1921, elle est saluée dès le port de New York par la foule, aussi blanche que noire. Elle est devenue si célèbre que chacun acclame Queen Bess, toute communauté confondue, son vœu le plus cher s'est finalement réalisé. Mais la dure réalité la rattrape. Les vols commerciaux n'existant pas encore, les pilotes civils n'ont que 3 débouchés. Voler pour l'aéropostale, faire de l'épandage agricole ou réaliser des shows aériens. Bessie, qui refuse d'avoir un patron, a vite fait son choix. Pour apprendre à faire des acrobaties aériennes, elle repart en France fin février 1922, puis continue par les Pays-Bas et l'Allemagne, où se trouvent les as de l'aviation mondiale. Bessie peaufine son apprentissage pendant 6 mois dans une Europe bienveillante à son égard. Le 3 septembre 1922, la reine est prête. Son premier spectacle a lieu dans le ciel de Long Island, dans l'État de New York. Bessie enchaîne loopings, 8 cubains, chandelles, rase-motte, atterrissage, moteur coupé. Le public est en extase. Pour $60 actuels, elle propose des baptêmes de l'air. Grâce à elle, la ségrégation recule car elle refuse de se produire si on n'autorise pas noir et blanc à être assis dans les mêmes tribunes.
Donc, elle a été quand même...
Les spectacles se succèdent et Bessie gagne le grand surnom de Brave Bessie, la courageuse. Parfois, son moteur cale en plein ciel. C'est que les appareils qu'elle utilise, loués ou prêtés, ne sont pas de première jeunesse, donc dangereux. Elle le sait, mais n'en a cure. Le 22 février 1923, c'est l'accident redouté. Elle fait une chute de 90 mètres et se crache en pleine voltige. On extirpe son corps de la carcasse fumante, la croyant morte, mais non. Elle se réveille et veut continuer le show. Un médecin lui interdit de reprendre l'air. Bilan, une jambe et quelques côtes brisées, des brûlures légères sur le corps, 3 mois de convalescence. Bessie se rend l'évidence, il lui faut un avion à elle. Alors, pour récolter de l'argent, elle ouvre un salon de beauté à Orlando.
Pleine de ressources quand même.
Oui. Elle souhaite aussi fonder une école de pilotage pour les Noirs. Elle donne des conférences dans les écoles et galvanise les enfants que les ségrégationnistes veulent priver d'avenir. « Si j'ai pu réaliser mon rêve, il n'y a aucune raison que vous ne réalisiez pas le vôtre », clame-t-elle. Elle parvient à récolter $400 avec lesquels elle s'achètera son Curtis Jenny, la machine qui l'amènera plus haut que jamais. Retour Au début de l'article, je parlais de fin avril 1926. Après plusieurs embardées, l'avion de Bessie s'écrase dans un champ. Son sponsor, le millionnaire afro-américain John Best, et la police s'approchent, épouvantés par le drame qui vient de se dérouler sous leurs yeux. Comme 3 ans plus tôt, la jeune femme va-t-elle se relever des décombres? Son corps gît comme une poupée désarticulée. Cette fois, pas de miracle, elle est morte en touchant le sol. Faisant fi de sa sécurité, elle n'a pas voulu boucler sa ceinture pour mieux pouvoir se pencher et repérer le terrain où elle avait prévu de sauter en parachute le lendemain. Betch est désorienté. Il s'approche de l'avion, cigare au bec, et ne voit pas le carburant répandu au sol.
Ah, OK. Le feu...
Un brasier s'allume sous ses pas et fait exploser l'appareil. Dans la carcasse carbonisée, on découvrira une clé à molette qui aurait provoqué la catastrophe en bloquant les commandes. À Chicago, plus de 10 000 personnes se rendront à ses funérailles. En 1929, la première école de pilotage ouverte aux Noirs, en son honneur, est inaugurée près de Los Angeles. L'ultime souhait de Bessie s'est accompli. Aujourd'hui encore, chaque 30 avril, sa tombe est survolée par des pilotes qui éparpillent dans le vent des brassées de pétales de rose pour rendre hommage à leur reine du ciel.
Wow! Vous connaissez le groupe ABBA? Vous n'avez déjà
de
entendu
nom, oui.
parler, sûrement. Donc, un article que j'ai trouvé dans la Presse Plus, écrit par Jean-Christophe Laurence, « ABBA, comme si vous y étiez ». À Stockholm, le plus célèbre groupe suédois est devenu un argument touristique. Un musée des plus amusants y est même entièrement consacré à ABBA. Beaucoup les trouvaient surtout quétaines, mais l'histoire a fini par leur donner raison. Plus de 35 ans après sa séparation, ABBA est devenu un groupe culte qui transcende les modes et les époques. Le quatuor québécois est même revenu dans l'actualité cette année par le truchement du film « Mamma Mia 2 » et l'enregistrement de 2 nouvelles chansons dont la sortie est prévue l'an prochain en même temps qu'une nouvelle tournée virtuelle. Dans ce contexte, le musée ABBA de Stockholm est loin de paraître dépassé, au contraire. Qu'on le prenne au premier ou au 8e degré, cet établissement n'est rien de moins qu'un détour obligé, non seulement pour les fans finis du groupe, mais aussi pour tout amateur de culture pop qui se respecte. Il faut dire que les créateurs ont mis le paquet. Loin d'être passif, le parcours est jalonné de stations interactives qui invitent le visiteur à déployer ses talents de chanteur ou de danseur, au risque d'avoir l'air nono en public, et on sait de quoi on parle. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est qui a écrit l'article. Situé à l'ombre d'un parc d'attractions dans l'île de Djurgården, je suis pas certain que c'est comme ça que ça se prononce, mais il y a un petit rond au-dessus du A, fait que j'imagine que c'est quand même. En plein cœur de la capitale suédoise, l'endroit ne paie pas de mine au premier coup d'œil. Mais dans les entrailles de la bête s'ouvre un étonnant monde souterrain où le temps semble s'être arrêté en 1977. Il y a certes des aspects plus prévisibles. ABBA ne pulvérisait pas les conventions et le musée est en partie à cette image. On y trouve aussi les inévitables artefacts ayant appartenu au groupe, dont les costumes, d'un kitsch à hurler, des disques d'or, des pochettes et de nombreux films d'archives dont certains remontent jusqu'aux années 60. On a aussi recréé les studios d'enregistrement, les bureaux de la maison de disques, l'hélicoptère de la pochette de Rival et même une loge d'amphithéâtre pour évoquer les tournées monstres des années 70. Mais plus on avance et plus on s'immerge dans l'univers d'ABBA au point de se transformer progressivement en 5e membre du groupe. Ici, de petites cabines munies de micros permettent d'enregistrer une chanson avec ABBA. Là, un studio photo donne l'occasion de poser avec le groupe. Dans la salle suivante, on vous propose de monter sur scène pour interpréter Dancing Queen en compagnie des hologrammes d'Agnetha, Benny, Bjorn et Anni-Frid. Plus loin, nous voici intégrés à un vidéoclip de la formation, comme si vous aviez toujours fait partie du quatuor. Cerise sur le gâteau, toutes vos performances sont immortalisées puis téléchargeables sur le site du musée. Au moins, vous n'aurez pas eu l'air fou pour rien. Ouvert en 2013, le musée ABBA attire 250 000 personnes par année, preuve qu'en plus d'être devenu une référence de la musique pop, le groupe est désormais un argument touristique en soi. Dans un rapport paru en 2014, 8 visiteurs sur 10 affirment qu'ils n'auraient pas visité Stockholm s'ils n'avaient pas connu ABBA. L'étude conclut que le tourisme lié à ABBA constitue désormais une frange à part entière du tourisme culturel en Suède. Et aussi, on dit qu'on offre désormais des croisières sur le thème ABBA. Faut faire quand même. Je savais que c'était populaire, mais de même que des visites guidées dans les rues de Stockholm où vous marcherez sur les traces du groupe. Il est aussi possible de faire la virée soi-même en se basant sur le guide ABBA de Stockholm, publié il y a quelques années. Ici Daniel Lachance au micro de Canal M et on est de retour avec la deuxième partie de l'émission Les Voix de service du mercredi 31 octobre, ce mercredi de l'Halloween.
Justement. J'ai des en l'honneur de l'Halloween en cette occasion. Dans la presse samedi, il y avait une section qui s'appelle « Monstrueusement attirant ». C'était un reportage de Sylvain Sarrazin. Et donc, ça va faire deux sections encore, deux reportages. Okay. Un premier sur 8 aventures fantastiques et un autre sur les créatures d'ici, parce qu'au Québec, on a des monstres aussi.
comme celui du Loch Ness et tout ça. Donc.
Oui, oui. Alors, inquiétant, ignoble, mystérieux. Bien que repoussant, les monstres légendaires appâtent toujours plus de victimes. Les touristes friands de fantastique. Surtout qu'ils peuvent constituer un excellent prétexte pour contempler de beaux cadres ou glaner des informations instructives. Allons en premier en Norvège. Des trolls et des fjords. Les trolls pullulent sur l'Internet. Mais il est ici question des vrais trolls, ceux issus des légendes scandinaves et qui sillonnent montagnes et forêts. Un de leurs berceaux? Le comté de Romsdal, sur la spectaculaire côte ouest norvégienne. Mais si les créatures se dérobent à votre regard, attention, les yeux. La route panoramique Geiranger Trollstigen, qui peut se faire à vélo, réserve fjord, pic et cascade en pagaille. L'office de tourisme local organisera même un safari de trolls l'été prochain, où seront traquées les créatures transformées en pierre ou en buisson.
La chasse aux trolls, genre.
Oui. Là, on va aller à quelque chose de plus effrayant pour l'Halloween. J'y vais en Roumanie, ça vous fait penser à quoi?
Oui, bien, bien sûr, ben Dracula. Oui.
100% draculesque. En Roumanie, le flux touristique est vampirisé par une destination phare, le château de Bran, au cœur de la Transylvanie, qui a servi d'inspiration à Bram Stoker pour planter le décor de Dracula. Perché sur son rocher, dominant un remarquable paysage, l'édifice secret compte près de 60 pièces où plane une atmosphère frissonnante. Et ce même si le vrai Dracula, Vlad l'Empaleur, n'y a jamais séjourné. Il résidait plutôt à une centaine de kilomètres à l'ouest dans la citadelle de Poenari, ruinée mais impressionnante à sa manière, avec ses 1400 marches à gravir. On va ensuite en Écosse, ça vous fait penser à quoi?
Ah voilà, ah, ouais. Le monstre du Loch Ness.
L'une des créatures les plus connues du monde a choisi de se nicher dans les Highlands écossais. Comme cadre, il y a pire, on avouera. Le Loch Ness peut se traverser en bateau et être admiré à partir des ruines du château d'Urquhart, datant du 13e siècle. Pour de meilleures chances d'apercevoir Nessie, le monstre du Loch Ness, un visiteur peut participer au circuit guidé de dégustation de whisky organisé par Island Taste à partir du village de Dromadochit. Ça doit aider à prendre une coupe de whisky, à voir le monstre.
Peut-être même
ça.
Que ceux qui ont vu, qui disent avoir c'est vu le monstre, oui. Peut-être après avoir bu pas mal de whisky.
Oui, oui. Alors, pousser l'exploration des Highlands récompensera assurément les curieux adeptes de paranormal paisible. Au Chili, ciel des ovnis, nous dit-on. Quand on pense aux petits hommes verts, le site de Roswell au Nouveau-Mexique envahit notre esprit. Mais le Chili se veut aussi un champion de l'observation des êtres venus d'ailleurs, en particulier sa région centrale. La petite ville de San Clemente, à près de 300 km au sud de Santiago, a ainsi officialisé un parcours de randonnée équestre de 30 km jusqu'à El Andrilado, un mystérieux site de 200 pierres quadrillées que certains désignent comme autant de plateformes d'atterrissage d'ovnis ou de traces laissées par une civilisation éteinte. Mais c'est aussi un bon prétexte pour traverser la superbe réserve nationale d'Astot de Lirqui. Vous avez ensuite le choix entre le Népal, l'Égypte, le Canada et la Suisse. Qu'est-ce qui vous tente?
Ben, le Canada, ça, je suis un petit peu intrigué. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de monstrueux chez nous? À part... Non, on les nommera
pas. Il y a une bébite dans l'Ouest canadien, Colombie-Britannique, qui ressemble au Yéti,
ben,
le
oui,
Sasquatch.
Oui, le Sasquatch, j'avais déjà entendu parler, c'est vrai.
Le pendant nord-américain du Yéti, connu comme le Bigfoot ou Sasquatch, fait aussi fantasmer les randonneurs. Sa présence a été signalée dans de nombreux États américains, particulièrement sur la côte ouest, mais la Colombie-Britannique n'est pas en reste. La ville de Harrison Hot Springs, qui a établi un parcours consacré à la bête folklorique, n'hésite pas à en faire sa marque de commerce. Musées, statues et randonnées dans le parc provincial de Sasquatch sont au menu, sans oublier les sources d'eau chaude pour se relaxer l'imagination. Allons au Népal aussi, tiens, oui, non?
Le Yéti.
Ah oui, ben Tintin
au
Tibet.
On a connu avec Tintin au Tibet, absolument.
Tintin au Tibet en a fasciné plus d'un, et nombre d'aventuriers seraient enjoués à l'idée de croiser le Yéti au détour d'un sentier. La rencontre n'est pas garantie, mais d'autres monstres encore plus gigantesques attendront les randonneurs de pied ferme, les sommets himalayens auxquels tout trek à travers le Népal vous conduira. En Égypte, dans la plupart des destinations que nous avons évoquées jusqu'ici, apercevoir des créatures fantastiques reste hautement improbable. En revanche, le Caire recèle les clés de réelles rencontres en chair et en baume. Après avoir admiré les pyramides de Gizeh, on peut se pencher sur leurs anciens locataires, les énigmatiques momies au musée égyptien du Caire. La plupart des corps embaumés trouvés depuis deux siècles, dont celui de Ramsès II, qui est venu nous visiter à Montréal il y a une vingtaine d'années, je pense, ils sont exposés au public dans deux salles spécialement aménagées, avec parfois des invités spéciaux comme la momie hurlante exhibée depuis février. S'animeront-elles sous vos yeux? Je sais pas. Peu probable. À moins que vous n'ayez pillé une tombe depuis ce temps-là. Le dernier, la Suisse. Connaissez-vous... as-tu vu le Dahu?
Dahu?
Dahu, ouais. Connaissez-vous ce mythe montagnard qui gambade à travers les Pyrénées et les Alpes? Le Dahu, une sorte de chèvre sauvage qui ne vit que sur des pentes, serait pourvu de deux pattes latérales plus courtes. Bien entendu, il s'effarouche facilement. En Suisse, une boucle de randonnée accessible à tous d'une dizaine de kilomètres à partir du village Dansaire, au cœur des Alpes valaisennes, lui rend hommage. Elle se pratique aussi en raquette pendant l'hiver, mais on ne dit pas si on l'a, si on finit par le rencontrer. Et voilà.
Donc, étant donné que c'est l'Halloween aujourd'hui, je pense que le sujet est peut-être approprié. C'est un article d'Alain Brunet dans La Presse Plus qui est paru le 29 octobre, qui s'intitule « Yoko Ono, sempiternelle imposture musicale ».
Ah oui?
Vous connaissez Yoko Ono?
Oh, ben oui, oui.
Bon. Donc, issue...
C'est de la culture quand même.
Oui, bon, mais c'est assez dur de... est incontournable. Ouais, je ouais, pense ouais, que même ouais. si on ne connaît pas la musique pop, on connaît Yoko Ono. Mm-hmm. Et ce qu'on ne savait pas peut-être, c'est qu'issu d'une famille, richissime famille japonaise, sa famille, je pense, c'était des banquiers au Japon, très riches. Donc, c'était pas pour l'argent
qu'elle
était avec John Lennon. Mm-hmm. Donc, issu d'une richissime famille japonaise, Yoko Ono est une artiste du performance art, promotrice de l'art contemporain, militante et pacifiste. Elle fut proche de l'avant-garde musicale new-yorkaise, du milieu de l'art contemporain et du mouvement Fluxus. Installée à New York, cette créatrice et promotrice fréquentait alors la Monte Young, John Cage, Henry Flint et autres Peggy Guggenheim avant de flairer la piste pop-rock et devenir l'amoureuse de feu John Lennon. Elle éduqua ce dernier aux formes autres que celles de la pop ou des orchestrations modernes suggérées par George Martin. Ensemble, ils formèrent un couple mythique. On sait aussi que Yoko Ono fut une source de conflits au sein des Beatles. Depuis son apparition dans l'imaginaire pop-rock, elle fut l'objet de débats polarisés, de discussions stériles. Elle l'est toujours, à 85 ans, quand même. Hein? Si certains adhèrent pleinement à sa légende, d'autres continuent à y voir une imposture. Pis encore, la cause principale de la dissolution des Fab Four. Qu'à cela ne tienne, elle fut et demeure une forte personnalité, figure iconique. Très jeune, elle avait parfaitement saisi son époque et s'appliqua à devenir un lien entre l'art contemporain et la culture rock, très puissant vecteur de subversion à la fin des années 60. Encore aujourd'hui, Yoko sait habilement surfer sur son mythe. Infatigable octogénaire revient à la charge avec cet opus aux allures de testament, constitué de relectures tirées de sa discographie. Impossible de s'inscrire en faux contre ses propos pacifistes, non-violents, féministes, écologistes, très critiques face à l'ordre planétaire qui prévaut, « This is hell in paradise », néanmoins porteur d'espoir. Alors pourquoi le doute persiste-t-il? Parce que la proposition musicale de Yoko Ono est faiblarde sur toute la ligne, prétentieuse par voie de conséquence. La conscience et la vision ne mènent pas forcément à de l'art concluant, en voici un cas patent. Les formes musicales ici revisitées par Yoko Ono restent embryonnaires. Folk rock, proto-punk, avant-rock, art-rock, électro, amateur. L'instrumentation est électronique, folk ou rock. Des sons guerriers et des cris d'animaux émaillent les nappes de claviers et motifs de guitare. Simples et discrets, les mots ne portent aucune poésie au-delà de leur vertu pamphlétaire. Quant à la voix, elle est tout simplement insupportable. Il est un petit peu dur avec elle, quand même.
Pas mal, oui.
Sauf que si on l'écoute, je pense qu'on va être d'accord avec lui. Très souvent, l'interprète doit se rabattre sur des cris viscéraux pour appuyer son propos. Ces cris ne sont pas répréhensibles en soi, mais s'avèrent compensatoires et donc suspects. La seule chanson vraiment réussie est la dernière, « Imagine », et devinez pourquoi. La démarche artistique de Yoko Ono est certes sincère, celle d'une femme progressiste et visionnaire dont on ne peut dissocier la proposition musicale de l'ensemble de son personnage et de sa vie qui constitue une œuvre en soi. Jusqu'à un certain point. L'écart entre la jeunesse de la vision artistique et l'insignifiance des formes musicales ou littéraires ici proposées produit un effet malheureusement négatif. Plutôt que de créer des liens entre l'art contemporain et la culture pop, ces chansons en renforcent les idées préconçues, et souvent erronées, sur l'art contemporain. Cette sempiternelle imposture musicale de Yoko Ono polarise les points de vue, on ne peut que s'en désoler.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come
strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Retour en 1967, cette fois avec la formation de Jim Morrison, les Doors et People Are Strange. Et permettez-moi cet aparté, j'accroche sur une des dernières choses que Jim chantait. People don't remember your name when you're strange. Les gens ne se souviennent pas de votre nom.
C'est bizarre,
quand
c'est
vous êtes étrange. Rendu aujourd'hui, c'est il faut être étrange pour que les gens se rappellent de nous. Hein?
Effectivement. Je pense qu'il s'est vraiment trompé dans cette phrase-là parce que tout le monde se souvient de lui et il est un petit peu étrange. Hein? D'ailleurs, le son de cette musique-là, j'écoutais tantôt et je me disais, c'est très approprié pour Halloween. Oui. C'est pour ça que je voyais les squelettes danser là-dessus. Ça convenait très bien. Donc, Serge, on continue avec...
Oui, ben toujours le spécial de Sylvain Sarrazin, pardon, sur les monstres. Ben, les monstres, les endroits intrigants sur la planète. Et là, ben, ces créatures d'ici, c'est au Québec. Même si le Québec ne jouit pas d'un endroit touristique légendaire, rayonnant internationalement, il n'en reste pas moins friand de contes et légendes. Quelques pistes locales pour traqueurs de mythes et de créatures. La Dame Blanche. Vous avez déjà entendu parler?
Oui, ça me dit ça, mais je ne sais pas c'est quoi la légende.
La légende veut qu'au 18e siècle, les amants Mathilde et Louis se retrouvaient souvent au sommet de la chute Montmorency. Mais peu avant leur mariage, le soldat tomba au combat. Désespérée, Mathilde, parée de sa robe de futur marié, se jeta du haut de la chute. Depuis, on raconte qu'une forme blanche erre parfois dans les environs.
Oh, c'est peut-être de la brume.
Peut-être. La Corriveau?
Oui, ça, on a quand même entendu parler.
Alors, ce célèbre mythe qui mêle histoire et folklore relate la pendaison et l'exposition dans une cage de fer d'une femme qui aurait assassiné plusieurs de ses maris au 18e siècle.
Qui aurait, donc, ça n'a jamais
été
prouvé.
Qui jamais été prouvé. Ouais. Ben, avec les preuves de l'époque, tu sais, Puis c'était celui qui a dit qu'il a vu qu'il avait fait.
Ouais.
Dans ce cas, la légende n'est pas liée à un lieu particulier, souligne la professeure Pascale Marcotte, mais plutôt à la cage, rapatriée du Massachusetts en 2013 et qui est aujourd'hui exposée au public au Musée de la civilisation de Québec. Frisson garanti. Il y a une photo de la cage ici, je la montrerai tout à l'heure. Là, un grand lac avec un monstre dedans, comme le Loch Ness.
Memphremagog.
Oui. Nous aussi, au Québec, on a des lacs. Alors, forcément, on a également des monstres. Ben oui, ça va ensemble.
Sauf que le lac Memphremagog, il va aussi aux États-Unis.
Oui,
donc,
oui.
Le monstre est peut-être américain.
Ben,
peut-être un gros poupette jaune.
Pas de politique aujourd'hui.
Non, c'est vrai.
Au lac Memphremagog, la rumeur d'une créature lacustre court depuis des siècles, rapportés même par les Autochtones.
Mais ça a toute une longévité, ces monstres-là, quand même. Ils doivent être vieux.
Ben, c'est ça que je... Fait... Le monde du Loch Ness, du coup, donc,
c'est ça. Il doit se traîner. Il doit être de la misère à se traîner aujourd'hui.
Et comment ils font pour se reproduire, ça, premièrement,
s'il y en a seulement un, c'est ça. C'est
en tout cas, peu, dans, selon mon expérience à moi. Là.
Peut-être qu'on a trop l'esprit obtus.
Oui. Sinon, on peut toujours guetter Ponik, comme il s'appelle, prétendu locataire du lac Fo'enegamouk dans le Bas-Saint-Laurent, ou encore Champ, l'anguille géante que même Samuel de Champlain aurait aperçue sur le lac, qui porte portant aujourd'hui son nom. Alors, il y en a différents. Là, les trous du diable. Oh là là! Il existe plusieurs trous du diable au Québec. Cavernes et phénomènes géologiques d'où ont jailli toutes sortes d'histoires fabuleuses et inquiétantes. Le plus connu, celui de Shawinigan. Je pense que je vais avoir l'image de Jean Chrétien qui m'est... qu'on aime bien tout le monde.
Ben oui, quand même.
Alors, celui de Shawinigan, une cavité qui s'est formée au fond des chutes de la ville et échoua le corps du prêtre Jacques Buteux, dit le mythe. Si on veut en avoir le cœur net, on peut toujours arpenter la grotte du trou du diable de Saint-Casimir de Portneuf, longue de près de 1 km et accessible au public. Ça doit être une belle expérience à faire. Les monstres autochtones. Ah, Isabelle aurait pu en parler. C'est la
ben oui.
Les mythologies amérindiennes regorgent de monstres malfaisants comme Akiyini, le squelette fantôme marin, ou Amarok, l'esprit du loup traquant les chasseurs imprudents chez les Inuits. L'un des plus répandus est sans doute le Wendigo, créature anthropophage, maudite et tapie au fond des bois. Frisson garanti lors de la promenade.
J'avais déjà entendu. Ah
oui, oui.
Wendigo,
hein. Moi, je ne connaissais pas, là. Alors voilà, c'est la tournée des monstres du des endroits effrayants du Québec.
Oh, ça, je pense que ça rappelle la scène du film
mais
Psycho.
Mais ça, vous savez, hein, j'ai vu ça, moi j'avais peut-être, je ne sais pas, 20 ans. Mm-hmm. Et je suis encore, j'ai été traumatisé par la scène de la douche, comme tout le monde. Et je suis, bon, là maintenant, j'ai vaincu cette peur-là. Mais prendre une douche avec un rideau qui n'est pas transparent, je suis à peu près incapable. Ben, je vais la prendre, là.
On reste
mais
marqué,
j'ai toujours en tête,
hein?
Tu dis... Parce que vous voyez cette forme qui apparaissait.
Ouais, ouais.
Et ça m'a pris, dès qu'il y a eu des rideaux transparents qui sont arrivés sur le marché, je les ai achetés.
Et d'ailleurs, juste le son de ça, on identifie immédiatement la scène.
Ah, mon Dieu, oui.
Et je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas du tout relié à l'Halloween, et à rien de peur, rien de ça. C'est juste parce que ça a vraiment attiré mon attention, étant moi-même guitariste. Un article qui est paru dans le rollingstone.fr. 50% des guitaristes sont des femmes.
Ah?
Pourquoi on ne les voit pas plus que ça?
Ben oui. Ça me semble que je n'ai jamais vu.
Ça a attiré mon attention. Je vais lire l'article parce que d'après moi, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Mais bon, ce que révèle une nouvelle étude menée par Fender, qui est une compagnie qui vend des guitares depuis les années 50, auprès des jeunes guitaristes qui se lancent. Quand on s'imagine un ado avec sa guitare dans sa chambre face à son miroir en train d'imiter Eric Clapton ou Jimi Hendrix avec plus ou moins de succès, ça j'imagine c'était plus les ados des années 60-70, parce qu'en tout cas, on en a à moitié tort. Mardi dernier, le célèbre fabricant Fender a révélé une étude démontrant que 50% des apprentis musiciens qui se lancent sur la six cordes sont en fait des musiciennes, une découverte qui permet au géant de réajuster sa cible en conséquence. En travaillant avec l'agence de consulting Egg Strategy, Fender a observé un panel de joueurs américains et britanniques. Le résultat pour ces derniers fut le même que celui relevé il y a 3 ans aux États-Unis. Les femmes représentent la moitié du panel observé. Les autres facteurs de l'étude, comme l'âge ou la démographie, n'ont pas été révélés. Une découverte qui mène Fender à totalement repenser son image, notamment en se rapprochant d'artistes féminines, en mettant plus en avant les femmes dans ses campagnes marketing, bref, en repensant totalement sa stratégie afin de correspondre à un marché qu'il ignorait totalement jusqu'à présent Et ce, malgré une campagne visant les milléniaux en 2016, dans laquelle les groupes Warpaint et Bully, constitués principalement de femmes, furent mis en avant. Le fait que 50% de notre clientèle britannique soit féminine fut une réelle surprise pour notre équipe, mais ça révèle totalement ce qui se passe aux États-Unis, a déclaré Andy Mooney, directeur général de Fender à Rolling Stone US. À un moment, nous avons aussi cru que ce chiffre était biaisé par ce qu'on appelait alors le facteur Taylor Swift. Vous connaissez la chanteuse Taylor Swift?
Mm-hmm.
J'imagine que les jeunes ont tendance à imiter leurs idoles, et ça, toujours normal. Mais en réalité, pas du tout. Taylor est passée à autre chose, elle joue beaucoup moins sur scène. Mais 50% de nos ventes sont toujours réalisées par des femmes. Donc, on dirait bien que le phénomène est parti pour durer, partout dans le monde, qui plus est. L'étude démontre également que 72% des acheteurs se procurent leur première guitare pour acquérir une forte expérience, 61% souhaitent simplement reprendre des morceaux, seul ou avec des amis proches ou de la famille, sans nécessairement vouloir percer, et 42% d'entre eux considèrent la guitare comme une partie d'eux-mêmes. Ça commence à être un petit peu...
ouais.
Bon. Un phénomène en contradiction avec le succès du rock en déclin dans les charts au profit des genres plus modernes comme le hip-hop, preuve que l'objet est avant tout considéré comme un puissant outil identitaire, mais également social et éducatif, conservant une certaine aura sur scène en particulier. De fait, Fender tente aujourd'hui d'attirer de nouveaux clients, jusqu'à présent trop timides pour se lancer dans l'aventure, d'après Mooney. L'avènement du punk avait créé une première ouverture, explique-t-il. Il s'agissait moins d'être un virtuose que de s'éclater et de se révéler à soi-même. Et je crois que ça s'applique aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle d'un groupe. Ils veulent juste jouer et atteindre le niveau qui leur convient. Tandis que les ventes de guitares ont plus ou moins stagné depuis l'âge d'or du rock'n'roll et que le secteur a récemment souffert d'une image morose, notamment avec la banqueroute de Gibson plus tôt dans l'année. Gibson, qui est, je dirais, la deuxième plus grosse compagnie qui vend des guitares dans le monde. Je ne sais pas, Fender, Gibson, ça s'équivaut pas mal, mais je ne dis pas que c'est les meilleures guitares au monde, mais c'est ceux qui en vendent le plus, les plus populaires. L'Institut de recherche Ibis World a constaté une belle croissance chez les fabricants américains, une embellie qui ne semble pas prête de s'éteindre. D'après Ibis World, en 2017, les parts de marché pour la guitare électrique s'élevaient à 37,2% pour Fender, devant Gibson 32,8%, CF Martin 10,9% et Taylor Guitar 9,3%, mais il faut dire que ces deux derniers font surtout des guitares acoustiques. Mm-hmm. Donc, j'imagine que ça c'est un petit peu un rapport. Donc, voilà, pas mal plus de femmes, de jeunes filles aussi qui jouent de la guitare qu'on pourrait penser. Donc, Serge, vous avez une brève pour nous.
Oui, j'en avais deux. Je viens d'en trouver une troisième. Je pense que je vous la dédier. Je vais prendre celle-là. Savez-vous qui a inventé les rave parties?
Non. Ça prend quelqu'un qui invente ça, j'imagine. Oui. J'ai aucune idée.
Margaret Thatcher.
Ah oui. Oui, on l'imagine
elle
très bien.
Elle allait swinguer. Ben oui, sinon, mais pas de blague. Pas de blague, c'est elle. Oui, oui.
La dame de fer.
Oui. En 1987, Margaret Thatcher, première ministre anglaise, contraint les discothèques à fermer à 2 h du matin. Tâchez tard, allez tout vous coucher. Mm-hmm. Bon. Pas question pour les clubbers d'arrêter la fête aussitôt. Ils organisent des soirées dans des entrepôts ou des usines désaffectées. Le public s'y rend en masse. C'est le début des raves. Au 10 Downing Street, la résidence du premier ministre, on ne compte pas laisser faire, surtout pas Mme Thatcher. Dans un mémo, une fonctionnaire écrit en 1989 « Les drogues ne sont pas le principal problème. » Le principal problème, c'est la nuisance causée par le bruit. Il y a étonnamment peu d'alcool. La même année, la dame de fer riposte en interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes sur fond de musique répétitive. En vain, car les free parties continuent en Angleterre et se développent en Europe.
Voilà.
La voilà.
Et aujourd'hui, dans le journal 24 heures, j'ai vu un article qui pourrait vous intéresser. L'Orchestre symphonique de Montréal se plongera lui aussi dans l'ambiance de la fête des morts et propose pour l'occasion le concert unique et coloré Atmosphère d'Halloween. Plusieurs pièces classiques donneront le ton à ce spectacle unique, comme L'apprenti sorcier ou encore Danse macabre de Liszt. Donc, c'est ce soir, mercredi 31 octobre, à la Maison symphonique 1600 rue Saint-Urbain.
Oh, c'est intéressant!
Rapidement, Serge.
Dentelle interdite aux pauvres. Chez les premiers colons américains venus d'Angleterre, on ne plaisante pas avec la mode et le rang social. En 1651, au Massachusetts, une loi indique que les hommes et femmes de basse condition n'ont pas le droit de porter de dentelle ou des boutons dorés ou argentés, ni de bottines élégantes. Seuls y sont autorisés les magistrats, leurs épouses et leurs enfants, les officiers, les personnes éduquées et ceux qui ont possédé un beau patrimoine, même s'il est aujourd'hui en déclin.
Bon, donc ça prend une autorisation pour porter des bijoux.
Oui.
Et c'est ce qui met fin à l'émission Les Voix de service de ce mercredi 31 octobre. On vous souhaite un joyeux Halloween à tout le monde et on devrait tout le monde vous retrouver, Serge, Jean-Sébastien et moi et Isabelle aussi, qui devrait être de retour mercredi prochain pour les voix de service. C'est un rendez-vous et dans quelques secondes, c'est Hélène qui vous rejoint avec le quotidien des quotidiens. Voilà.